Au quotidien, avec Hélène Denis.
8 juillet 2026, notre cœur est en berne depuis hier, depuis que nous avons appris avec stupéfaction, avec tristesse, la mort d'un grand, de chez nous, Marc Messier, immense acteur, un homme vraiment drôle, vraiment sympathique, un gentilhomme d'une grande élégance. Donc, le Québec le pleure. On s'ennuie déjà de lui et j'en reparlerai dans l'actualité puisqu'il est partout. Il fait la une, notamment de la presse et du Journal de Montréal. Aujourd'hui, au menu, nous aurons une rencontre. Je vais certainement lui parler de Marc Messier. Je ne sais pas s'il a déjà joué avec Marc Messier, mais j'aurai la chance de m'entretenir avec une grande comédienne, Marie-Lise Bourque, qui souligne ce mois-ci ses 33 ans de carrière, elle qui a commencé à l'âge de 16 ans dans Watatatao et qui va souffler sur ses 50 bougies en septembre. Elle est née le 1er septembre, alors elle sera avec nous autour de 10h30. Nous parlerons aussi avec Caroline Fortin, directrice et rédactrice en chef de la revue Continuité, numéro 189, le plus récent, qui nous invite à prendre la route des vacances. Et puis, Serge Bradet n'est pas en vacances, il est là. Bonjour Serge.
Bonjour Hélène.
Vous allez nous parler des moutons?
Oui, oui. C'est vraiment une chronique cute, là, que j'appelle. C'est le bienvenue au repère de Biquette.
Ah oui, juste Biquette. Ça nous fait craquer. Oui.
Parce que vous savez, il y a trois endroits à Montréal, trois parcs à Montréal où il y a des moutons, des petits troupeaux de moutons. Alors, ça, c'est une expérience vécue par un camelot. C'est dans la revue Itinéraire que j'ai acheté la semaine dernière et je l'achète régulièrement. Et il y a très souvent, souvent des bons articles. Là, tout ça.
Merci. On va vous écouter avec grand plaisir. Isabelle Falardeau est au bout du fil pour nous parler de petits poissons aujourd'hui.
Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Coup de pouce et qui est inspiré d'un article paru sur le blog de Harvard Health. Donc, on nous parle de manger des plus petits poissons pour notre santé.
Comme des sardines?
Plutôt que des gros poissons. Là.
Comme des sardines?
Comme des sardines, comme des harengs, des anchois, etc.
Tout ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'aime ça, les anchois.
Puis je vais vous donner des petites idées aussi de comment les consommer pour vous inspirer.
Bon, Isabelle et ses petites idées. Merci beaucoup.
Un lendemain d'ayahuasca. C'était la heste, tu connais Siddhartha. La dernière flèche de mon cœur, quoi. On fait l'amour, on fait la gueule. Love bomb to pop, cœur. Donne-moi mes fleurs pendant que je heur.
mais tout en passe. C'est vrai, tout en passe.
Tout au passa, une chanson de Mike Clay.
Personne n'y échappe, hein, à la mort. Ça nous surprend de voir le beau visage, tout sourire de Marc Messier à la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le Québec pleure un géant. Et la chronique de Sophie Durocher, où elle dit que ça va prendre la dureté du mental pour passer à travers ce deuil-là. Ici, un clin d'œil à son personnage de Bob dans Les Boys. Inconcevable, donc. Marc Messier, qui a brillé dans Brou, Lance et Compte, La Petite Vie et la franchise Les Boys, est décédé à l'âge de 78 ans, plongeant le Québec dans le deuil, tant il était une figure appréciée du grand public depuis des décennies. Le comédien aux yeux bleus perçants et aux cheveux châtains roux s'est éteint entouré de ses proches au terme d'une brève maladie, a précisé l'agence Goodwin hier matin. Véritable monument et figure hautement sympathique, Marc Messier a connu une grande carrière sur scène ainsi qu'à la télé et au cinéma. Il était à la fois apprécié de ses camarades de jeu et de création, ainsi que des Québécois qui l'ont suivi à travers une galerie de personnages souvent drôles, mais aussi plus dramatiques vers la fin de son immense carrière. Son grand ami Claude Meunier, dont il était très proche, a parlé de Marc Messier comme d'un frère et d'un gros morceau compère, lui qui avait joué encore récemment au tennis avec lui. « Les Boys, ça commence à faire », a dit pour sa part Rémi Girard en parlant des décès de Paul Hood et de Louis Saya, auxquels s'ajoute Marc Messier. « Si ça continue, on va reformer l'équipe en haut ». De son côté, l'auteur de « Lance et Contre » et Jean Tremblay a parlé d'un vrai de vrai choc. Né en 1947 à Granby, le comédien a connu un parcours parsemé de succès avec ses amis Michel Côté qui n'est plus, et Marcel Gauthier. Marc Messier est devenu un incontournable du milieu culturel grâce à Brou, dans laquelle il a campé plusieurs personnages de 1979 à 2017, la distribution originale obtenant même le record Guinness de longévité pour une pièce jouée avec la même distribution. Est-ce que vous l'avez vu, la pièce, Brou?
Moi, je l'ai vu à la création dans un petit théâtre sur Saint-Laurent. Je pense que c'était la... Comment ça s'appelait, donc? En tout cas, c'était sur Saint-Laurent, c'était tout petit. Et j'ai vu la création.
Ah, wow! Puis
après ça, ils n'ont pas pu continuer dans ce théâtre-là parce que ça ne correspondait pas aux normes de sécurité de la ville.
Oui, oui, oui.
Donc, ils ont, le théâtre a fermé, mais eux ont continué la carrière
qu'on connaît. Ah oui, ça a été présenté maintes
les
et maintes
voyagements,
fois.
Les voyagements.
OK, ça, c'était le nom de la troupe.
Oui, oui, du théâtre.
Ah oui, du théâtre aussi?
Des voyagements.
Ah, OK, il faudrait regarder, il faudrait faire une recherche plus approfondie. Il me semble que c'était aussi le nom de la troupe, mais... Vous êtes plus au courant que moi, peut-être, vu que vous étiez à la création. Moi, je l'ai vu à l'époque où je faisais de la radio à Val-d'Or. J'avais même interviewé les gars. J'étais allée dans leur chambre d'hôtel. J'avais un contact avec celui qui s'occupait des accessoires, Clément Desrosiers. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais il doit avoir beaucoup de peine ce matin. Alors, Clément m'avait téléphoné. J'avais eu accès, donc, à une entrevue en direct de la chambre d'hôtel avec les trois gars qui avaient été tellement gentils. Des gars simples, là, qui ne se prennent pas pour d'autres, qui ont des talents immenses, ils n'ont rien à prouver. Et Marc Messier faisait partie de ces géants-là. Il a joué jusqu'à la toute fin. On l'a vu récemment dans, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans Bienvenue à Kings and Falls. C'est une série qui est disponible, je crois, pour l'instant, que sur l'extra de Tout TV. On l'a vu dans Le Retour d'Anna Brodeur, très touchant, qui faisait l'ex d'Élise Guilbeault. Et il y a vraiment une scène là-dedans là, qui est bouleversante. Avant le crash aussi. Puis aussi, pour ses 70 ans, il s'est offert son premier One Man Show.
C'est ça
que
j'allais dire, oui.
Seul en scène, qui est disponible sur Crave, avis aux intéressés. Et puis, on le verra aussi dans une série qui prend l'affiche, si je puis dire, sur l'extra aussi, dès demain. Le gouffre lumineux qui est inspiré de l'histoire de la comédienne Annick Lemay, qui a souffert d'un cancer du sein et qui s'en est heureusement bien sortie. Et c'est Marie-Ève Perron qui joue le rôle d'Annick Lemay. Et Marc Messier joue, lui, le père du personnage incarné par Marie-Ève Perron. Donc, on le verra demain. Vraiment, il a une carrière extrêmement riche, ce Marc Messier. Et on le pensait éternel. Il avait l'air toujours jeune dans sa manière de penser, d'être. Et j'entendais, je pense, c'est Patrice Robitaille qui l'a connu sur le plateau des Boys. Il dit, j'avais l'impression que j'étais mon chum de gars, puis il avait l'âge de mon père. Mais souvent, entre acteurs ou entre artistes, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et puis, à la une du Journal de Montréal, on parle aussi de cet hommage à un policier et un père exceptionnel. C'est le policier là, qui a été victime d'un attentat, d'un assassinat à travers des témoignages. Là, je cherche la page, c'est en page 6 et 7 du Journal de Montréal, justement, à travers des témoignages saisissants. La famille et les collègues du policier tué à Montréal il y a 2 semaines ont comblé l'immense vide laissé par le père de famille par un puissant sentiment de fierté. Il s'est sacrifié courageusement pour sauver un nombre inestimable de personnes présentes sur les lieux du drame, a laissé tomber Amira, l'une des sœurs de Mohamed Lamine Ben Redouane. Le 22 juin dernier, c'est non seulement une personne en or, mais un fils dévoué, un conjoint aimant, un oncle affectueux, dis-je bien, et un papa exceptionnel qui a été arraché par un tireur fou à la famille de l'agent de 34 ans. Son frère et ses sœurs ont brossé dans un centre Bell, plongé dans le noir, un portrait intimiste de l'homme derrière l'uniforme hier. Tout ça sous le regard de près de 6000 autres policiers du Québec et d'ailleurs au pays qui avaient formé plus tôt un immense cortège dans les rues de la métropole. Sur la scène, ses proches ont difficilement retenu leurs larmes lors des témoignages replongeant dans le parcours du trentenaire. Né en Algérie, il a grandi dans le quartier Côte des Neiges. Et il avait un frère jumeau qui a dit qu'il a promis que sa conjointe, la conjointe donc de Mohamed, Lamine Ben Redouane, et leurs 2 enfants, dont un qui doit bientôt voir le jour, ne seront jamais seuls malgré le vide immense. Et le chef du SPVM, Fadi Daguerre, semblait tourmenté à l'idée que cette famille si serrée grandisse sans l'agent Ben Redouane. Aimé de tous ses collègues, il était comme un grand frère, a témoigné le sergent Simon Deschênes. Malgré les dangers du métier de policier, nous devons rester forts et unis, car c'est ce que Mohamed voulait par-dessus tout, a-t-il ajouté. Il a ensuite déclenché une bruyante ovation pour un héros qui ne sera jamais oublié. L'amphithéâtre n'est plus, c'est plus tard illuminé aux lumières de cellulaires de l'auditoire. Des images du défunt défilaient sur le grand écran pendant que la pièce Yellow de Coldplay résonnait. L'agent avait écouté cette chanson avec sa partenaire juste avant l'attaque qui lui a coûté la vie et qui a gravement blessé la policière qui, elle, lui a rendu hommage par voie il y a quelqu'un qui l'a fait pour elle parce qu'elle est toujours à l'hôpital. Elle avait écrit un mot très touchant et elle l'appelait « Mo ». Et à la une du Devoir, Marc Messier, celui qui a marié Taverne et Vestiaire, le comédien qui a marqué les esprits pour ses rôles dans Les Boys, Lance et Comte et les mythiques pièces Brou et Les Voisins, est décédé mardi à 78 ans. Et le Devoir est en France. Le Pen, condamné, mais en selle pour 2027, Marine Le Pen. La justice lui laisse le choix de se présenter à la présidentielle tout en la condamnant de manière visible, dit un expert au Devoir. Et puis, je termine avec la une de la presse, c'est Marc Messier qui prend la place principale de la une de la presse plus. Un comédien hors norme, ce sont les mots de Claude Meunier qui parle de son grand ami avec qui il a tellement ri. Ils en ont tellement eu de fun. Il parle d'un comédien hors norme et aussi d'un homme hors norme. L'annonce de la mort soudaine de l'acteur a eu l'effet d'une commotion. L'interprète de Brou, de Marc Gagnon et de Régent, qui était aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, a marqué plusieurs générations. Hugo Dumas signe une très belle chronique intitulée « Ses yeux bleus se sont fermés trop vite ». Et il a eu des informations aussi sur la maladie qui a emporté Marc Messier. C'est une maladie une maladie de sang. J'essaie de trouver le passage pour ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'on parlait d'une maladie brève là, qu'il avait emportée, mais il avait une maladie qui donc attaquait son sang. Oui, il subissait des traitements pour une maladie du sang, pas la même que celle qui a emporté son ami Michel Côté, écrit Hugo Dumas, qui était apparemment bien contrôlé. Puis, un virus respiratoire aurait compliqué le portrait et provoqué un arrêt cardiaque fatal, d'où cet immense choc collectif après la publication d'un communiqué annonçant sa mort mardi midi à la suite d'une brève maladie. Et toujours à la une de la presse plus, fusillade de Côte-des-Neiges, tu as donné ta vie afin que d'autres vivent. Près de 10 000 personnes se sont rassemblées à la mémoire de l'agent Mohamed Lamine Ben Redouane. Et donc, voilà, je vais m'arrêter, puis on va passer, la POC, la rondelle, à Isabelle Falardeau qui parle de manger de plus petits poissons plus souvent. Mon cher Serge,
oui.
À l'ouverture officielle de leur petit théâtre des voyagements au 5145 Boulevard Saint-Laurent, le 21 mars 1979, les acteurs Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier créent Brou devant 80 spectateurs, c'est dont ça. Serge Bradet.
Ah, ben,
mais ça, c'est pas écrit. Alors, vous aviez tout à fait raison.
Je me rappelle que c'était vraiment minuscule, ce petit théâtre.
Oui. Merci pour cette information. Et puis, j'ai fait pas mon mea culpa, mais mon erratum. Je n'étais pas sûre de ce que vous aviez avancé. Je devrais vous faire plus confiance. Isabelle, c'est à votre tour.
Tu es sceptique.
Oui, ils seront confondus.
Alors, je vous parle de poissons. Donc, le titre de l'article de Mégane Tanguay que j'ai trouvé dans le site du Coup de Pouce, publié le 4 juillet. Voici pourquoi les experts recommandent de manger de plus petits poissons plus souvent. On commence par nous dire que quand il est question de poissons, c'est souvent le saumon, le thon ou l'espadon qui attire l'attention. Moi, j'ai jamais goûté d'espadon, j'aurais peut-être mentionné la morue, mais c'est vrai qu'on mange plus souvent ces poissons-là. Mais selon une analyse publiée par Harvard Health, les espèces plus petites pourraient mériter une place beaucoup plus importante dans notre alimentation. Les chercheurs se sont intéressés aux aliments qui sont situés plus bas dans la chaîne alimentaire marine, donc comme les sardines, les anchois, le hareng et le maquereau. C'est des poissons qui présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des espèces plus grandes, autant sur le plan nutritionnel que d'un côté un aspect environnemental. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on devrait manger des plus petits poissons? Apparemment, remplacer une partie de la viande rouge par du poisson, c'est déjà un bon choix sur le plan nutritionnel, mais si on opte pour des espèces qui sont situées plus bas dans la chaîne alimentaire, ça nous offre des avantages de plus. Les petits poissons comme les sardines, les anchois, le hareng, le maquereau, c'est d'excellentes sources de protéines, mais aussi ils contiennent des nutriments importants comme le fer, le zinc, la vitamine B12, et des oméga-3, donc on parle souvent du saumon pour les oméga-3, mais ces petits poissons-là en contiennent aussi. Et ce sont des gras, bien sûr, qui sont reconnus pour leur rôle dans la santé cardiovasculaire. Il y a un autre aspect aussi qui distingue ces espèces, c'est qu'elles sont souvent consommées entières, incluant les petites arêtes, donc ça nous fournit aussi du calcium et de la vitamine D, qui sont deux nutriments essentiels au maintien de la santé osseuse. Et ça exclut évidemment le maquereau. Généralement, les os, on les enlève parce qu'ils sont pas, on peut pas les manger, sauf s'ils sont en conserve, où là, on peut les écraser et les manger également. Ça, je suis allée chercher ça dans l'article original là, sur Harvard Health. Il y a un autre aspect aussi. Ils sont généralement moins exposés à certains contaminants. Les espèces plus grandes comme le thon ou l'espadon se nourrissent de nombreux poissons plus petits tout au long de leur vie et ça favorise l'accumulation de substances comme le mercure dans leur tissu. Oui. Et les poissons de plus petite taille ont généralement des concentrations plus faibles des contaminants qui peuvent se retrouver dans l'eau. L'étude aussi évoque les fruits de mer à coquer, donc on ne parle pas juste des poissons, on essaie de descendre le plus bas possible, encore une fois, dans la chaîne alimentaire marine. Donc, les fruits de mer à coquer, comme les huîtres, les moules, les palourdes, ils contiennent moins d'oméga-3 que certains poissons gras, mais ils demeurent riches en protéines, en zinc et en vitamine B12. Et en plus, ils nécessitent peu de ressources pour être produits et contribuent même à filtrer l'eau dans leur environnement naturel. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est encore plus avantageux. Et les chercheurs rappellent aussi que ces aliments-là sont au cœur du régime, du fameux régime méditerranéen, j'ai envie de dire, donc traditionnel, qu'on nous cite souvent parmi les modèles alimentaires les plus favorables à notre santé cardiovasculaire, mais à toutes sortes d'autres santé, aspects de la santé. Les sardines, les anchois, y occuperaient une place de choix depuis des générations. Et en conclusion, on mentionne aussi pas seulement les poissons, mais si on descend encore plus bas dans la chaîne alimentaire, ben, on peut retrouver les végétaux aquatiques comme les algues. Ils sont peu répandus, elles sont peu répandues dans notre alimentation nord-américaine, mais elles fournissent des fibres, de l'iode et aussi plusieurs vitamines et minéraux. Et là, je sais, peut-être que vous n'avez pas nécessairement d'idée pour manger vos sardines, hein, parce que c'est ça, c'est beau de dire « mangeons des petits poissons », mais encore faut-il qu'on ait envie de les manger et que ça nous satisfasse.
Moi, je suis toujours prête.
D'accord. Dans l'article original, là, donc sur le site de Harvard Health, on nous donne des suggestions pour utiliser les sardines qui soient conservées dans l'eau ou dans l'huile. Donc, servies sur des craquelins ou des croutons de pain, là, comme ceux qui sont servis avec le tartare, avec un filet de jus de citron. Préparé en façon salade de thon pour garnir un sandwich. Donc, au lieu d'écraser du thon avec la mayonnaise, etc., là, votre recette familiale de salade de thon, peu importe, remplacez-la par des sardines, le thon par des sardines. Ensuite, tout simplement, ajoutez à une salade grecque, donc pour en faire une salade encore plus riche en protéines. Et finalement, mélangez à des pâtes, soit dans une sauce tomate, soit simplement avec du citron, des cadres et des flocons de piment rouge. Un peu d'huile, je dirais aussi, là. Donc ça, c'est des petites idées pour manger vos sardines. Et si vous avez envie de découvrir les algues, parce que c'est vrai qu'on en a peu dans notre alimentation, mais ça, c'est de plus en plus présent, je ne sais pas si vous connaissez le site Océan de saveurs. C'est en fait à la base une boutique en Gaspésie, mais vous pouvez commander les produits peu importe où vous êtes. En Amérique du Nord, apparemment, on dit livraison gratuite à partir de 80$ et plus en Amérique du Nord. Et ils ont une grande variété d'algues dans leur catalogue. Et non seulement ça, mais c'est qu'ils nous donnent des suggestions pour les utiliser. Vous allez découvrir des choses comme le goémon noir en flocons, la kombu entière, le wakame, ce fameux wakame. Mais là, on parle du wakame d'Atlantique, mais celui que vous retrouvez dans les salades, là, qu'on trouve dans les restaurants japonais pour accompagner le sushi.
Mm-hmm.
Alors,
comment ça s'appelle déjà le titre, le site, Isabelle?
Océan de saveurs, donc océan de saveurs, saveurs au pluriel, .ca, tout simplement. Vous allez trouver leur catalogue. En fait, vous cliquez sur le produit pour l'ajouter dans votre panier et on vous donne donc une description, des suggestions pour l'utilisation et on vous dit aussi ce que ça contient, comme par exemple le wakame d'Atlantique, source d'iode, de protéines, de fer, de calcium, de magnésium et de fibres. Donc, c'est vraiment, j'ai déjà commandé là, sur ce site-là, c'est un site qui est vraiment, vraiment digne de confiance.
Ah oui.
Ils ont aussi des poissons, si vous voulez commander vos petites sardines. Ils ont des sardines du Portugal, mais avec des algues québécoises ajoutées, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plein de produits intéressants, des produits locaux.
Bien, merci beaucoup pour tout ça, chère Isabelle. Vous nous avez donné envie, si ce n'était déjà fait, de manger des petits poissons. Mais les plus gros aussi sont bons, là, mais...
Oui.
Oui, mais c'est ça, il faut varier. Hein. C'est, comme,
oui.
C'est comme dans tout.
Oui.
La variété,
comme
c'est...
dirait l'autre, quand les menus varissent, on est bien heureux. C'est une grosse faute de français, là. C'était volontaire.
Ça fait dans la petite vie, ça.
Oui, ça aurait pu. Merci.
On tico, 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 on tico, tico, tac, c'est tico, tico, même mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il me dit aimez-vous, les amoureux se fient sur lui dans mon patin. Et quand il crie 8 heures, tout chavire en mon cœur, je pars ignore bien pour petites heures du matin. Quand je suis d'accord, coucou, mais autrement, vous, à qui les gens y échappent mon petit coucou. C'est un oiseau qui avait le soleil se prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment t'y rendre. Il me dit peu importe la nuit ou le jour, quand j'entends mon petit pipo qui m'appelle,
patelin. Et lorsqu'il dit coucou, il me dirait aimez-vous. Les amoureux s'appuient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je parie ne rien contre 6 heures du matin. Quand je suis d'accord, coucou, mais autrement, ouhou, oh qu'il est gentil et j'apprends mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment t'y rendre.
Vous n'aviez pas la berlue, c'était bien Alice Robbie qui chantait sous la direction de Millie et Bob.
Oui, un remix, comme on dit, de Tico Tico. Mm-hmm. Serge,
oui.
Vous l'avez reconnu, Alice?
Bien, j'ai des doutes, mais coudonc.
Mais c'est...
Il me semble que la voix est un peu... Et ça va, on dirait que ça va plus vite. Et...
Mais j'allais dire, on a trafiqué, mais en tout cas, on a mixé autrement la voix. Mm-hmm. Mais c'est vraiment elle.
Ah bon.
Et Serge, tantôt, oui, il y a eu une petite confusion là, par rapport à mon doute. Vous disiez que vous aviez vu Bruce, je vous crois, là, au Théâtre des Voyageurs sur le boulevard Saint-Laurent à l'époque, au début, là, en 1979.
Ah, oui, 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 oui.
Et il y avait très peu de places, 80 places.
Ah, oui,
vous faisiez partie, donc, des privilégiés. Mais vous ne saviez pas trop où vous alliez, ce que vous alliez voir, j'imagine. C'est une création.
Ben non, c'est la création,
oui, oui. Est-ce que vous aviez aimé ça?
Ah, beaucoup.
Oui?
Beaucoup, beaucoup. Ah, oui.
Est-ce que vous l'aviez vu après?
Oui, je l'ai revu après, au moins une fois ou deux fois, je pense.
OK. Parce que...
peut-être dans les années fin 80, puis après ça, 90.
Oui.
Là, j'arrêtais après ça.
Parce qu'à chaque fois qu'on allait voir Brou, moi, je l'ai vu, je pense, deux fois, on demandait, est-ce que c'est votre première fois? Levez la main, qui a vu la pièce plus d'une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois? Découragez-vous pas, vous allez finir par comprendre. Et j'étais confondue, étant donné que je pensais plus à la salle La Polonaise sur Prince Arthur, où on a inauguré, où on a créé la comédie musicale Pied de poule en 1982.
Oui.
Okay. Alors, trois ans après Brou. Un autre succès. Qui n'a pas eu la même longévité, mais qui a été aussi un grand succès. Alors voilà, on va s'arrêter ici, puis on va continuer avec vous, Serge. Bienvenue au repère de Biquette, les moutons du parc Maisonneuve et d'autres parcs au retour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, tout le monde est là. Mathieu Tessier, allô! Je ne vous avais pas dit bonjour.
Bonjour, les minous. Salut tout le monde.
C'est quoi cette imitation-là, Pogo?
C'est ça, je suis
pas dans Petite Vie.
Je retrouvais pas la voix de Régent dans La Petite Vie, mais je sais qu'il disait souvent Minou à sa femme. Mais là, j'ai bifurqué.
Dans Petite Vie, ben, c'était Régent Pinard, le personnage incarné par Marc Messier. Et Claude Meunier racontait que ils sont amis dans la vie depuis toujours. Et quand ils se parlent au téléphone, ils se parlent au « on ». Ils se parlent à la troisième personne, comme Régent le faisait dans La Petite Vie. Alors, on y va avec vous, Serge.
Oui. Alors, dans la revue L'Itinéraire de la semaine dernière, du 1er juillet 2026, le numéro 12, on parle, regardez la belle photo de couverture, embrasser la laine.
Ah, oh, wow! C'est un mouton de très, très, très près. Là, on voit le bec avec la laine.
Oui. Mais
pas le bec du mouton, la gueule. Oui, merci, le museau.
Alors,
on dirait un lion.
Oui. Donc, le titre « Bienvenue au repère de Biquette », un article de Maureen Jouglin. Alors, chaque été depuis 2019, une vingtaine de moutons élisent domicile dans une petite bergerie du parc Maisonneuve. Une initiative unique au Québec qui cherche à rapprocher la ville du monde pastoral. Et en août 2025, donc il y a un an, L'Itinéraire avait visité la fermette en compagnie de Mostafa, qui est camelot du magazine et qui avait endossé pour l'occasion le rôle de berger. Alors, il nous parle de son expérience, Mostafa. Les moutons étaient déjà sortis de leur étable lorsque nous sommes arrivés sur place au repère de Biquette du parc Maisonneuve. Ils broutaient paisiblement, tandis que des bergers bénévoles, bâtons en main, les suivaient à travers le parc. Il arrive ainsi régulièrement que cyclistes et promeneurs soient brièvement interrompus par une mini-transhumance qui traverse les routes du parc à la recherche de l'herbe la plus fraîche. Alors, vous faites de la place aux moutons. C'est les moutons qui ont priorité.
En ville.
Oui. Le troupeau est limité à 20 individus, on le comprend, conformément à une directive de la ville, ce qui permet aux bénévoles de bien connaître chaque animal. Et d'ailleurs, quelques heures passées auprès des ruminants, certains traits de leur personnalité se démarquaient déjà. Et Madrid, le grand bélier chouchou de nombreux visiteurs et bénévoles, se tenait légèrement à l'écart du troupeau. Il veillait sur le troupeau. Tandis qu'une grande histoire d'amitié naissait entre Charles-Édouard, un mouton noir, et au bêlement persan, et Mostafa, notre bénévole de la journée. Et tous les jours, ben, vous avez une vingtaine de bénévoles qui se relaient pour faire fonctionner la petite ferme urbaine. Ça prend quand même du monde. Hein, pour.
Mais oui, c'est sûr.
Lors de notre visite, nous avions rencontré Jocelyne, qui entamait alors sa deuxième année de bénévolat. Et pour elle, son rôle de bergère urbaine est avant tout protecteur. Même s'il n'y a pas de loup au parc Maisonneuve, elle protège les moutons des gestes maladroits des passants, des enfants un peu trop enthousiastes, comme on peut l'imaginer, ou encore de la tentation des arbres fruitiers. En plus des bergers, l'organisme Biquette Éco-Pâturage, qui chapeaute le repère du parc Maisonneuve, compte sur des volontaires pour s'occuper des poules, des abeilles, des potagers, pour nettoyer la bergerie, évidemment, et accueillir les visiteurs de passage dans le petit espace aménagé. Être bénévole demande donc une grande fiabilité, « parce qu'on travaille avec du vivant », explique Annie Cloutier, gérante du site qui voue un amour sans bornes à ses animaux. « On a besoin de gens qui vont venir, même s'il pleut ou qu'il fait très chaud. C'est le bien-être des animaux qui en dépend, insiste-t-elle. » Tu es sur une ferme, on n'a pas le choix. Hein. C'est 24 heures sur 24.
7 jours sur 7.
365 jours par année, puis beau temps, mauvais temps. Alors, fondée en 2016, Biquette Éco-Pâturage est aujourd'hui présent sur plusieurs sites à travers la région métropolitaine. Les moutons pâturent notamment au parc Armand-Bombardier, à Rivière-des-Prairies, sur l'ancien site de l'Hippodrome de Montréal, et nouvellement sur le terrain du Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, campus de l'Université nationale de la recherche scientifique à Laval. L'hiver, depuis 2 ans, ils se reposent dans la ferme écolo du cégep de la Naudière. Un petit break. Inspiré de pratiques observées en Europe par sa fondatrice, Marie-Ève Julien-Denis, le concept repose sur l'utilisation de moutons pour l'entretien écologique des espaces verts. Mais alors que l'organisme entame sa 11e saison, cette année c'est la 12e, force est de constater qu'il offre bien plus que ce qu'il avait promis. Des équipes de recherche se penchent d'ailleurs sur les retombées du projet, sur le contrôle des plantes envahissantes grâce au broutage, par exemple. Dans une étude menée par la chaîne d'excellence en recherche du Canada, Une seule santé urbaine, rattachée à l'Université de Montréal, des chercheurs en santé publique s'intéressent aussi aux effets de la présence des moutons en milieu urbain, tant sur l'environnement que sur le bien-être des personnes qui les côtoient. On voyait les sourires, on sentait que ça faisait du bien, mais là, c'est constaté par un œil extérieur, souligne Annie Cloutier. La fermette permet aussi d'offrir un petit aperçu de la vie agricole. Avant, tout le monde avait une grand-mère ou un oncle qui avait vécu à la ferme. On savait comment vivaient les moutons, les poules, vaches, chevaux, cochons. Mais maintenant, on est coupé de ça, nos parents ne l'ont pas vécu et n'ont pas pu nous le transmettre, regrette-t-elle. Reste que faire vivre une ferme en ville comporte son lot de défis. Le repère n'échappe pas aux réalités urbaines, incluant vol opportuniste et acte de vandalisme, malheureusement.
Ah.
L'an dernier, on a eu beaucoup de vols, confie Annie Cloutier. Et
des vols de quoi?
Des vols, ben, je ne sais pas, pas les moutons, mais ils disent des vols, là, peut-être dans la bergerie. Là,
Il y a des loups?
Oui.
Des loups humains?
Oui. Il y a une personne qui, croyant bien faire, avait même tenté de libérer les moutons une nuit.
Oh.
Ben, pensez bien faire. C'est un acte de... Bon. C'était complètement irréfléchi. Il n'y a pas de moutons mieux traités que les nôtres. Dans la majorité des fermes, les moutons sont élevés pour la viande et vivent rarement plus d'un an. Et même les reproducteurs dépassent rarement 5 ans. Ça, je ne savais pas que ça vivait pas très vieux. Ouais. Là, les...
Moi non plus.
Nous autres, notre plus vieille brebis a 9 ans et tous nos moutons sont suivis par un vétérinaire. On ne les laisse pas avoir mal. On parle
ils sont bien traités. Soin,
ouais. Petite anecdote avant de continuer. Moi, mes grands-parents avaient une ferme, petite ferme de famille. Là. Mm-hmm. Et à un moment donné, on y allait jusqu'en 1960, quand ils ont vendu la ferme, fermé la ferme, c'est-à-dire. Et ils nous ont écrit, ils ont écrit à ma mère, dire, ben, dites aux enfants qu'on a deux moutons maintenant. Et les moutons étaient en liberté. On n'a jamais eu de pelise, de pelouse aussi bien faite qu'avec
oui.
les moutons. C'était clean, 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 clean partout. Puis il y en avait grand. Les moutons se promenaient là, partout, ils étaient en liberté. Tu sais, puis,
ça broutait.
Ah oui, ça broutait, broutait, oui. Une question. Qu'est-ce qu'on fait de la laine? Ah ah!
Oui.
Ah ah! Mm-hmm. En avril.
On la tricote.
En avril, les 20 moutons passent à la tondeuse, mais pas question de gaspiller cette matière. Des ateliers de triage et de lavage de toison, de filage et même de tricot sont organisés par l'organisme pour apprendre à travailler la laine. Les visiteurs peuvent même acheter celle de leur mouton préféré. Et au Canada, les fibres produites sont en général épaisses, autour de 24 microns pour les plus fines, et souvent entre 27 et 32 microns.
Des microns?
Des microns, oui. Parfaites pour les poules, pour les pulls. Selon la race de... pas les poules, les
on
pulls.
On imagine les poules avec oui. des petits pulls.
Les pulls.
Ah, je me suis imaginé.
Ou des pantoufles.
Oui. Selon la race du mouton, une fibre de laine peut mesurer entre 15 et 36 microns, et un cheveu humain moyen fait près de 50 microns.
Ah.
Donc, c'est une bonne... Plus la fibre est fine, plus elle peut être portée près du corps. Ah, c'est le gros avantage. Ce qui explique le succès du mérinos, dont les fibres descendent jusqu'à 16 microns.
Mmh.
Ouais, ouais, ouais.
Une unité de mesure, finalement, mmh. là, ce micron.
Oui. Et on dit aussi...
Qu'est-ce qu'on dit?
Saviez-vous que le Canada compte 53 races de moutons? Qui est beaucoup.
Non. Hein?
Ouais. Et qu'à elle seule, les provinces de l'Ontario et du Québec concentrent 52 % de la population ovine au pays.
Ouais.
En 2025, près de 900 éleveurs québécois ont élevé environ 116 000 brebis qui doivent être tondues chaque année. Ça fait du travail.
Wow.
Alors, ça fait de la tonte.
Oui, alors que fait-on de la laine qui s'accumule? Ben, il y a plusieurs filières pour l'exploiter. On dit seulement que la demeure, il est comme minimum une pour la laine. Au Québec. Le Québec demeure un important centre manufacturier et textile en Amérique du Nord. Pourtant, en dehors de certaines applications artisanales, l'industrie de la laine s'y limite aujourd'hui presque exclusivement, savez-vous à quoi? Aux chaussettes.
Ah oui?
Ouais, ouais,
ah,
ouais.
Oui.
Des chaussettes de laine, c'est extraordinaire.
C'est dommage, estime Denis Charest.
La laine d'alpaga.
Oui, oui, oui.
Mais ça, c'est un autre animal.
Oui. C'est dommage, estime Denis Charest, directeur général de Technitextile Québec, le créneau d'excellence des matériaux textiles techniques de la province. Le Québec dispose pourtant d'un héritage important dans le secteur. Notre industrie textile avait concentré dans la mode, mais depuis les années 90 et les accords de libre-échange, tout a été relocalisé. Il reste encore des connaissances et quelques entreprises qui travaillent à la laine, comme Filature Le Mieux en Beauce, l'Unixil, mais la fenêtre d'action se referme. Et si on attend encore 10, 15 ou 20 ans, il risque d'être trop tard. Il faut trouver d'autres marchés pour la laine.
Ah, ouais. Ça finit tristement.
Ben oui.
Oui. Alors, vous avez trouvé cet article dans l'itinéraire du 1er juillet.
1er juillet, le numéro 12.
Oui. Et vous vous demandiez d'où ça vient, c'est l'expression « mouton noir ». Mathieu a fait une petite recherche parce qu'habituellement, le troupeau est constitué de moutons blancs.
Mm-hmm.
Et bien, il y a des moutons noirs aussi, ça existe. Mm-hmm. Mais paraît-il qu'ils sont plus indésirables étant donné que la laine est difficile à teindre.
Ah, OK, OK.
D'où l'expression, quand on dit le mouton noir de la famille, parce qu'il est difficile à teindre. Façon de parler. Faut lire entre les lignes. Merci beaucoup, Serge.
Plaisir.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument.
Vous nous avez donné envie d'aller les voir, là, ces moutons-là,
notamment
au Parc Maisonneuve ou ailleurs. Merci aussi, Isabelle.
Merci, bonne journée.
Bye.
Avec toi, tu es si belle dans ta robe noire, talons.
Ça faisait longtemps. Pierre Flynn et sa chanson « Sur la route ».
Oui, une chanson qui nous donne envie de prendre la route. Et ça donne bien parce que cet été, la revue Continuité nous invite à prendre la route des vacances et à redécouvrir le patrimoine québécois. On en parle avec Caroline Fortin, directrice et rédactrice en chef de Continuité. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous avez choisi le thème de la route des vacances pour votre numéro d'été?
Oui, parce que c'est un sujet super important puis très saisonnier. Donc, tu sais, depuis longtemps, des décennies, les vacances, ils ont comme façonné notre manière d'habiter puis de parcourir le territoire. Puis les routes du Québec, les motels, les haltes routières, ils font partie d'un imaginaire collectif très fort. Puis c'est souvent chargé de souvenirs personnels et familiaux aussi. On a tous des souvenirs de vacances qui nous sont très chers.
Oui. Et comment une route, justement, ou un voyage peuvent-ils faire partie de notre patrimoine?
Oui, en fait, ça fait partie de notre histoire à la fois personnelle, mais aussi collectif. Donc, les souvenirs de vacances, les photos de famille, des anecdotes sur un motel, une halte routière, ça témoigne de pratiques sociales, de modes de vie, puis des paysages en transformation. Puis c'est en collectant puis en mettant en valeur ces souvenirs-là, on transforme les expériences individuelles en patrimoine collectif. Ça éclaire à la fois notre mémoire, notre culture, mais aussi notre rapport au territoire.
Et Caroline, justement, vous faisiez un appel à tous récemment pour publier des souvenirs de vacances de certaines de vos lecteurs, lectrices. L'appel a porté ses fruits, je pense, hein, si je me fie à ce que j'ai vu dans la revue Continuité.
Oui, absolument. On a publié un super article. En fait, c'est un album photo souvenir de photos de vacances qui ont été envoyées de nos lecteurs. Puis, c'est tellement le fun de se plonger dans les albums souvenirs parce que ben ça là, écho dans nos propres souvenirs.
Oui.
Je pense que quand on parle que c'est très personnel, mais à la fois collectif, là, on est là-dedans. Puis, l'idée, c'était de raconter l'histoire des vacances en hauteur humaine à travers des souvenirs heureux qui sont parfois simples, mais marquants. Tu sais, par exemple, on a une jeune femme qui tient plein de poissons dans ses mains après une période de pêche. On a des Gaspésiens qui prennent le train pour aller visiter Québec pour la première fois. On a un...
Oh, les enfants dans la cuve!
Oui!
Je m'excuse, je vous ai coupé, là. J'étais en train de regarder les photos. Je me sens laissée emporter.
Aucun problème. Des enfants dans une cuve pour laver le sable avant de rentrer dans le chalet. Tu sais, c'est fun de se plonger dans ces souvenirs-là. Puis c'est juste du bonbon.
Ah oui. Une super photo en noir et blanc là, de baigneurs ou de baigneuses qui sont dans une chaloupe. Je ne sais pas si c'est une chaloupe, en tout cas de type Verchères, mais je peux lire Broad View. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Brigitte Trudel. Et c'est vraiment de belles pages à lire et à conserver aussi qui nous donnent envie de sortir nos propres photos de vacances.
Oui, absolument. Même moi, dans mon billet qui explique un peu le dossier thématique, j'ai moi-même retombé dans mes propres photos, puis j'en ai mis deux dans mon billet.
Oui,
c'était trop le fun de replonger dans mes souvenirs. Je me suis dit, je vais en partager moi aussi.
Oui, on de belles photos, une à Wildwood et puis une en Gaspésie.
Oui.
Est-ce que ça fait partie de vos destinations, je sais pas, de rêve, ou est-ce que ce sont des rituels que vous poursuivez finalement?
Ben, quand on était petit, on allait toutes les années à Wildwood. Mm-hmm. Puis la photo de Gaspésie en camping avec la tente et tout, c'était vraiment spécial parce que, en fait, mon père déteste la nature. Puis lui, c'est un Montréalais. Puis il a décidé de tester une fois le camping en famille. Puis on n'a pas fini le voyage. La tente a fini dans les poubelles.
Oh,
donc,
non.
C'est une photo très précieuse pour nous parce que c'est le seul et unique moment où on est en camping dans notre vie.
Ah oui.
Il y a des... Puis je suis comme lui, j'aime pas le camping.
Oh non! Et puis, vous vous qualifiez de petite tannante.
Oui, absolument, mais je suis la dernière de trois enfants, donc inévitablement, mon rôle, c'était d'agacer les plus grands.
Alors, le dossier s'intéresse aussi au motel kitsch. C'est quoi un motel kitsch?
En fait, c'est un espace qui nous qui crée un dépaysement, mais chez soi. Donc, on est encore au Québec, mais on a comme un genre d'entrer dans un exotisme polynésien, par exemple, avec l'hôtel Coconut à Trois-Rivières, où on peut dormir littéralement dans une station spatiale futuriste.
Oui,
donc à Saint-Julien, avec des espèces de motels thématiques. On peut aller à l'hôtel, à l'auberge Château de Baya à Pointe-la-Garde, par exemple, qui est un espèce de château super kitsch. Donc, c'est quelque chose, une architecture qui impressionne, qui est comme très particulière, mais en même temps qui nous apporte un dépaysement qui sort de l'ordinaire.
Et c'est dommage parce que paraît-il que c'est comme en voie d'extinction, là, ces endroits dits kitsch.
Oui, parce que c'est pas un patrimoine qu'on considère très noble. Tu sais, par exemple, nos grands bâtiments de pierre, par exemple, dans le Vieux-Montréal et tout. Tu sais, c'est comme un... Par exemple, l'hôtel Coconut à Trois-Rivières, c'est super, super kitsch, super connecté, mais en même temps, il y a comme quelque chose de très important là-dedans.
Oui.
Ça fait partie de notre univers de vacances, de notre désir de se dépayser. Puis, c'est le kitsch, là, ça se définit comme, je vais lire un extrait, là, par l'imitation, le toc, puis la volonté de créer un environnement qui t'amène ailleurs. Donc, c'est carrément ça. Puis ça a son importance aussi dans l'histoire du Québec puis de son architecture.
Et justement, Valérie Gaudreau, qui signe le texte, parle du livre et aussi de la série en Kitsch Québec. Je me souviens, j'avais fait une entrevue avec une des deux autrices, là, Caroline Dubuc et Roxane Arsenault, et ça nous donne un autre point de vue là, du kitsch. On l'aime davantage si ce n'est pas le cas, là. Mais moi, c'est sûr que j'ai envie d'aller au Coconut de Trois-Rivières.
Oui, effectivement, c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie.
Et vous consacrez aussi un article sur aux haltes routières. Pourquoi c'est important de préserver ces espaces-là?
En fait, on s'est posé la question, est-ce que les haltes routières font partie de notre patrimoine?
Ouais.
Encore là, on parle d'un espèce de... On essaie de définir qu'est-ce que le patrimoine, elle est où la limite, mais là, ça, effectivement, c'est un espace qui est né avec l'essor de l'automobile, puis ça l'a accompagné des générations de voyageurs. Puis là, en plus, le gouvernement est comme dans un espèce de mouvement de refonte de ces haltes routières. Donc, il y a toute une réflexion sur est-ce qu'on conserve les haltes comme elles étaient, est-ce qu'on les modernise carrément? Est-ce qu'on efface et on recommence? Donc, il y a un questionnement là-dedans, puis ça nous ouvre les yeux sur une forme de patrimoine qu'on était juste de passage, puis on s'en rendait pas compte finalement qu'on vivait une expérience patrimoniale quand on va gazer ou faire notre pause pipi en plein milieu d'un voyage.
Oui, mais c'est parce que ça participe à une expérience. Hein? On s'y arrête justement pour aller soit faire le vide ou le plein. Ça dépend,
oui.
Mais aussi pour pique-niquer. Et c'est important donc de les entretenir parce que si on va aux États-Unis, là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, là, mais on remarque que les haltes routières sont extraordinairement bien traitées. Ici, elles datent des années 60-70. Il y a quand même un projet de rénovation, de restauration hein, pour certaines d'entre elles, j'espère. En tout cas, il me semble que j'ai lu ça là, dans votre article.
Oui, absolument. Donc, il y en a plusieurs qui ont été modernisées, comme par exemple, moi, je pense, proche de chez moi, il y a celle de la Valtrie, plus de Point du Jour, qui a été modernisée.
Oh! Caroline, je vous ai, on vous a perdu un peu. Peut-être.
Ah, Dieu!
Non, c'est correct. Trois mots, là. Okay. Vous disiez qu'il y en avait une dans quel coin déjà?
Dans mon coin, donc moi je viens de la Naudière, donc il y a celle de Point du Jour à la Valtrie qui a été modernisée vers les années 2020-2021.
Mm-hmm.
Sinon, il y a d'autres projets qui sont le fun. C'est par exemple le jardin Napierville,
oui.
Donc la halte routière sur l'autoroute 15. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé l'espace existant, donc en pierre, puis ils ont ajouté une annexe moderne. Donc c'est comme une façon de correspondre aux besoins actuels, mais tout en conservant le patrimoine,
oui.
Par exemple.
Une idée brillante. Alors, on devrait les imiter. Et aussi... je voulais vous parler de ce cahier touristique « Escapade estivale, patrimoine et histoire, été 2026 ». C'est un guide estival et il y a plein de suggestions là-dedans. Là. Ça nous donne envie là, de prendre justement la route pour aller les visiter. Qu'est-ce qui a motivé cette nouveauté?
Oui, en fait, c'est qu'on voulait avoir une petite touche vraiment pour inciter les gens à vraiment vivre le patrimoine cet été, vivre l'histoire. Donc, on a fait appel à des lieux en histoire et en patrimoine, puis on a fait un recueil. En fait, c'est classé par région. Donc, il y a une grande majorité des régions au Québec qui sont représentées. Puis, vous avez plusieurs sites historiques ou des activités historiques à faire. Puis moi, d'ailleurs, j'ai été au parc Marie-Victorin avec ma mère grâce au cahier parce que je connaissais pas ça du tout. Puis elle les fans du jardin botanique. Donc,
mm-hmm.
Je me suis dit, allons découvrir un nouvel endroit. Donc, le cahier est disponible gratuitement sur notre site web, donc magazinecontinuité.com, dans autres publications. Donc, je recommande fortement de le télécharger puis de le feuilleter.
Ah oui, il est très bien fait, de belles illustrations. Ça donne justement envie de partir à la découverte, de faire un road trip. Vous en parlez de road trip dans le magazine aussi?
Oui. On se demandait, on a demandé à des spécialistes des road trips. Donc, il y a Guillaume Hubermont qui a publié un livre sur un road trip sur la 138 dernièrement. Sinon, il y avait Jeanne Rondeau-Ducharme qui a publié un livre, là, je vais peut-être dénaturer le titre, là, mais c'était comme voyager lentement, autrement. Donc, c'est faire vraiment du slow traveling. Puis, en bon français.
Ouais.
Mais l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut ajouter du patrimoine à notre road trip puis faire du patrimoine le cœur. Donc, on peut, par exemple, miser sur le patrimoine paysager. On peut s'arrêter dans des attraits qui sont plus patrimoniaux, par exemple, aller voir des phares ou sinon des lieux patrimoniaux, des maisons anciennes. Donc, il y a toutes sortes de façons puis de petits trucs là, pour ajouter du patrimoine à son été.
Oui, encore une fois, un beau numéro, patrimoine et villégiature, prendre la route. On y trouve aussi des textes sur une maison en kit Sears. Je ne connaissais pas ça du tout. Des ateliers destinés aux enfants pour qu'ils découvrent les maisons ancestrales. Un chaloupier de profession, il s'appelle Pierre-Luc Morin, un personnage vraiment intéressant à découvrir. Alors, merci pour tout ça. Si on veut s'abonner, si on veut avoir le numéro, qu'est-ce qu'on fait, Caroline Fortin?
magazinecontinuité.com.
Alors, je rappelle que vous êtes directrice générale et rédactrice en chef de la revue Continuité. Petite tannante aussi, mais ça, je le dis une fois, puis ça sera tout pour aujourd'hui et pour les prochaines fois. Et puis, Caroline, ben, je vous souhaite un bel été. Est-ce que vous allez prendre la route des vacances?
Ah oui, absolument. J'ai très hâte.
Alors, bonnes vacances, puis on se retrouve au prochain numéro. Merci.
Merci beaucoup.
On écoute au retour Summer Girl par Jamiroquai et on parle après avec la très bonne actrice Marie-Lise Bourque. Dimanche à 22h et le lundi à 21h.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Summer girl, feels like I'm in love again.
la chanson Summer Girl de Jamiroquai.
Oui, dans une décapotable, ce serait parfait. On l'a connu dans Watatata, on l'a vu dans Kilomètre Heure, Une grenade avec ça, dans les séries Nuit blanche après le déluge, Indéfendable, Vitrerie joyale, Annie et Joey, Prescott, et on la verra en décembre 2026 dans Fanny, la série issue du film qui est sorti en 2024. Cette fois, ce sera en décembre 2026 sur les plateformes de Télé-Québec. Est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Marie-Lise Bourque, qui est au bout du fil. J'aurais bien aimé vous recevoir en studio, mais vous êtes tellement populaire, là, vous êtes en tournage à l'extérieur de Montréal. Bonjour, Marie-Lise.
Bonjour, Hélène.
Ça me fait très plaisir de vous parler, d'autant plus que ce mois-ci, vous célébrez vos 33 ans de carrière et vous n'avez pas 75 ans ni 85 ans, là.
Non, ben non, pas encore. Je l'aurai un jour, je l'espère.
On vous le souhaite. Et ben, en attendant, vous allez quand même avoir 50 ans. Le 1er septembre, ça s'en vient lentement, mais sûrement. C'est donc dire que vous avez commencé très jeune dans le métier. À l'âge de 16 ans, c'était dans Watatata. Et je me demandais, Marie-Lise, qu'est-ce qui vous avait donné envie de devenir comédienne? Pourquoi vous avez participé? Parce que c'est via un concours et des auditions là, que vous vous êtes retrouvée dans Watatata.
Exact. J'ai pas de bonne réponse super intéressante. Je le sais pas trop, en fait. Même à ce jour, pourquoi j'ai participé? C'est-à-dire que je pense que j'étais quelqu'un de game. C'était pas le premier type de concours auquel je participais, mais je ne rêvais pas d'être actrice. Quand je faisais de la scène, je faisais de la danse, dans une troupe semi-professionnelle. Donc, tu sais, la rigueur de ce que ça demande d'être un artiste, le respect de la scène, le respect des spectateurs, ça, l'espèce de rigueur dans le travail artistique, ça, je connaissais déjà. Mais par contre, le jeu, j'en faisais pas, je viens pas d'une famille d'artistes non plus, j'habitais à Québec, donc tout ça était loin de moi. Je pense que c'était une forme de... un mélange de courage et d'inconscience, en fait. Là. Oui. Puis je pensais pas gagner. Puis au fil des... Parce qu'il y a eu beaucoup d'auditions. C'était à la grandeur du Québec. Et donc, mettons, ils choisissaient les 400. Puis là, ça diminuait de fois en fois. Mais là, plus j'avançais dans les auditions, plus je les réussissais, plus je me disais, oh mon Dieu, là, ça se peut que ça fonctionne. Et là, tout à coup, là, ça me tentait que ça fonctionne. Ça devenait tout à coup possible. Puis ça a fonctionné. Fait que c'est un peu plate comme réponse, mais c'est la réalité.
Oui,
oui. C'est pas quelque chose que je désirais si profondément et que j'aurais rêvé. Je me percevais pas du tout comme une artiste. Je me percevais beaucoup plus comme quelqu'un de très cartésienne, de plutôt intellectuelle, réservée. Mais il faut croire que j'avais ce feu-là en moi, puis ça m'a permis de le laisser émerger, en fait.
Alors, moi, je trouve pas que la réponse est plate. Elle est plutôt honnête et originale.
OK, d'accord.
Mais vous auriez pu aussi vous diriger vers la danse, parce que vous disiez que vous aviez fait partie d'une troupe.
Oui, sauf que j'avais pas un grand talent de danseur. C'est-à-dire que pour faire partie de cette troupe-là, oui, il fallait que tu y mettes tout ton cœur, il fallait que tu travailles fort sur la danse, mais on te demandait pas la perfection. C'était vraiment une troupe semi-professionnelle où le but était de monter des spectacles, d'aller les présenter parfois dans des contextes plus sérieux. Là, je me souviens, on a déjà fait le Grand Théâtre, on a déjà fait le Capitole, mais on faisait aussi des petits festivals. Tu sais, le but, c'était d'être généreux lorsqu'on dansait, c'était ouais. De faire un bon spectacle, mais j'étais pas une grande danseuse, là. J'étais plutôt honnête, puis on, tu sais, c'était pas, il y avait, tu sais, on faisait pas de ballet classique, de ballet jazz, c'était, on montait des chorégraphies, on essayait qu'elles soient bonnes, puis on le partageait avec tout notre cœur, c'était plutôt ça, là.
Oui, mais vous y allez aussi avec votre cœur en tant que comédienne. Quand vous êtes arrivée sur le plateau de Watatata en tant que personnage de, vous incarniez Maggie Malo, est-ce que vous vous êtes sentie tout de suite à l'aise?
Oh mon Dieu, non. Non, non, ça a pris des années avant que je commence à être à l'aise.
Ah,
j'étais
oui.
J'étais très impressionnée. C'est comme si ça n'avait pas rapport ce qui se passait. Là. Moi, j'ai gagné 3 épisodes dans une émission qu'on voit à la télé, que ma sœur écoute à l'heure du souper. Puis là, je m'en vais à Montréal tourner, dire des mots dans un texte. Et c'était vraiment. C'est un petit choc pour moi. C'est un petit choc aussi de voir les acteurs. T'sais, je me souviens de voir Hugo Saint-Cyr, Maë Paiement. C'est des gens que je connaissais de la télé, fait que j'étais plutôt impressionnée et très, très, très consciente de mes failles. C'est-à-dire que sais, j'essayais de faire du mieux que je pouvais avec ce que je comprenais de ce qu'il fallait que je fasse, mais c'était le plus que j'étais capable de faire. Fait que, bien honnêtement, il y avait quelque chose d'un peu souffrant. J'étais très stressée, j'étais très... Il a fallu que je prenne de l'expérience pour me détendre. Et quand il a commencé à avoir de la détente, là, il y a eu du plaisir. Mais c'est quelque chose qui s'est fait. Puis tu sais, je tournais pas beaucoup. La première année, j'ai tourné 3 épisodes. C'est vraiment pas beaucoup pour prendre de l'aisance. Même en tant qu'acteur, quand on commence sur un nouveau projet, tu sais, notre première journée, souvent, on n'est pas tout à fait encore dans les sujets de notre personnage. Et on n'est pas encore totalement détendu. Et ça, malgré le fait qu'on a de l'expérience. Fait que j'arrivais pas comme à me détendre.
Mais vous aviez gagné pour participer dans 3 épisodes et finalement, on a décidé de vous garder?
En fait, on m'a rappelé l'année d'après, est-ce que ça tente de continuer? Je fais « Ah, ben oui! »
Bon, je pense
qu'ils m'avaient donné 4 épisodes. Puis l'année suivante, 10. Fait que, ils m'ont rappelé comme ça d'année en année. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, là, je commençais à comprendre ce que je faisais. J'éprouvais plus de plaisir. » Puis je rentrais à l'université. Je m'en allais en psychologie à l'université. Puis là, j'ai fait « Qu'est-ce que je fais? » Je rentrais à l'université tout de suite où j'essaie de me prendre une agente puis de passer des auditions. Je me donne un an. Puis si je décroche autre chose, ça voudra dire que j'ai quelque chose à faire dans ce métier-là. Puis si ça donne rien, ben dans un an, l'université va être encore là puis je serai pas trop vieille et tout ça. Fait que j'ai décidé de prendre ce pari-là. Fait que je me suis pris une agente. Puis j'ai décroché, je pense, la première affaire, j'ai décroché, c'est Diva. Puis pas longtemps après, j'ai eu Kilomètre-Heure. Puis ça a comme jamais arrêté.
Non.
Fait que c'est un peu ça, le parcours. C'est comme si, en toute humilité, mais des fois, je le vois comme ça, c'est comme si le métier était venu me chercher, une petite grue qui était venue me chercher au-dessus de moi. Puis elle avait... « Hey, ma fille, tu vas pas dans la bonne direction. C'est ici que ça se passe, là, tu sais. » Fait que voilà.
Est-ce que vous pensiez, peut-être parce que vous disiez que vous pensiez à étudier peut-être la psychologie, mais que le jeu vous intéressait et il y avait une demande aussi, là, parce qu'on vous a rappelé là, pour continuer à travailler dans Ouattatata. Mais est-ce que vous vous êtes dit « Bien, je vais faire l'école de théâtre. »
J'y ai pensé. Je l'ai envisagé, mais il aurait fallu à ce moment-là que je quitte des contrats. Et j'étais pas capable. C'est-à-dire que d'un côté, ça me titillait, puis je sentais que j'avais de grands manques, puis que toute la portion théâtrale, j'y avais jamais touché. Mais en même temps, tu sais, j'étais, mettons, parfois sur 1, 2, 3 shows par année, je me disais, est-ce que je vais quitter ça, mettre une pause? Il y en a qui le font et je salue leur courage. Mais moi, je n'ai pas été capable de le faire. Par contre, je suis allée chercher des cours privés, des cours de théâtre, des cours de voix, des cours de diction pour un peu parfaire ça, ces petits manques-là, là, développer les sphères auxquelles je n'avais pas touché.
Oui, et c'est pas obligatoire non plus de passer par les écoles.
Ce n'est pas obligatoire, mais je ne conseillerais pas à un jeune de ne pas le faire. C'est-à-dire que tu pars avec un bagage réel, puissant, où on t'a permis de jouer beaucoup de rôles, des choses qu'on... Tu sais, quand tu vas en télé, en général, tu as un casting, on te propose quelque chose de précis, puis tu connais pas ton outil. Fait que tu vas faire des erreurs, tu vas être très conscient de tes failles versus... C'est un bon gym, l'école.
Ouais.
Tu pratiques plein d'affaires, tu apprends à vraiment connaître ton outil. Moi, ça m'a pris des années à le connaître, mais devant le public. Fait que des fois, c'est un petit peu difficile. À supporter, mettons, là, tu sais, de dire, oh mon Dieu, il me semble que ma scène n'était pas bonne, mais je ne peux pas comprendre trop comment j'aurais pu y aller. C'est sûr que l'école ne donne pas toutes les réponses, mais c'est quand même un sport avec un beau bagage.
Oui. On peut peut-être se permettre de se casser la gueule un peu plus quand on est en formation que quand on est devant une caméra ou sur une scène. Et aussi, ça nous permet de rencontrer des gens du milieu, mais le fait que vous soyez dans des émissions, bien, vous avez rencontré des acteurs, actrices de métier. Est-ce que vous avez des mentors ou des idoles dans le métier?
Mentor, idole, non, mais chaque personne que j'ai croisée, que je considérais comme un bon acteur, je l'ai épié à son insu. C'est-à-dire c'était une de mes façons d'apprendre, d'observer ce qui se passait en moi, mais d'observer les autres.
Vous aviez des modèles, quoi.
Ben oui, tu sais, sur chaque plateau, tu sais, même encore aujourd'hui, ça fait partie de ma nature. Je regarde beaucoup les techniciens travailler, j'observe beaucoup parce que ça m'intéresse d'un milieu que je trouve fascinant. Donc, mais tu sais, je me souviens d'avoir travaillé avec Marie Tufaux et Guy Nadon sur O, tu peux pas...
Ouais, c'est pas les pires acteurs, ça.
Non, tu sais, c'est des gens qui sont en maîtrise de ce qu'ils font, qui ont... qui ont connu le métier à une époque où c'était totalement autre chose de jouer, de faire des films et tout ça. Donc, premièrement, ils portent notre milieu en eux, puis ils l'ont vu évoluer, puis ils les entendent parler de leur approche, de comment ils se préparent. Ce sont deux personnes, par exemple, que je, malgré le fait que ça faisait quand même plusieurs années que je faisais ça, que je regardais travailler avec grand intérêt.
Oui, et ce qui émane de ces deux acteurs-là, ce sont leur manière de jouer naturelle et on y croit, comme on croit à vos personnages. Moi, je pense, Marie-Lise Bourque, que votre personnage de mère en deuil de son petit garçon dans District 31, c'est là, je pense, que je me suis dit, quelle actrice! C'est là que j'ai apprécié l'étendue de votre talent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, ben c'est très gentil, mais c'est drôle. Si on me demandait qu'est-ce qu'il y a... tu sais, des fois, il y a un point de bascule dans une carrière. Je crois que ça a été mon premier point de bascule. C'est comme si ce personnage-là m'a permis, parce que... Puis c'était normal. J'étais une jeune fille qui manquait d'expérience, qui faisait des shows jeunesse, des shows drôles, qui faisait la fille de... Donc, et là, j'avais une partition un peu plus complexe où j'étais tout à coup une mère, où je devais vivre un drame et jouer des choses qui demandent un petit peu plus d'agilité.
De maturité.
Oui, puis un niveau de difficulté peut-être un peu plus élevé.
Oui.
Donc, j'ai eu l'impression que les gens ont fait « Ah! » Mon Dieu, ben oui, elle est comme plus mature, elle est comme rendue plus à quelque part. J'ai eu l'impression que ça a été un premier déclic, ça a été un premier souffle dans le dos qui m'a aidé à, ben, premièrement, à prendre confiance en moi. J'ai vu que j'étais capable de faire ça, que tant que tu joues pas des choses difficiles, tu restes dans le doute, vais-je être capable d'interpréter des choses comme ça? Donc, ouais, c'est ça. Donc,
on pourrait dire que the rest is history.
C'est gros, j'oserais pas.
Mais moi, j'ose. Mais parlez-nous de votre expérience dans Vitrerie Joyale, l'excellente série de Martin Matt dans laquelle vous interprétez Diane Joyale, qui est en quelque sorte la mère de Martin Matt.
Exact. Mais en fait, c'est comme si le focus de l'histoire a vraiment été mis sur le père de Martin, sa vie, son histoire, ce qu'il a vécu. Le personnage de la mère, effectivement, dans la vraie vie, elle a vécu tout ce qu'on voit dans la vie du père, mais il y a des trucs qui ne sont pas pareils et je ne me suis pas inspirée d'elle du tout. Je l'avais même jamais rencontrée avant le visionnement d'équipe. Donc, c'est inspiré, mais tu sais, par exemple, le fait que mon personnage est en quête de travailler, elle travaillait la maman de Nicole, la maman de Martin.
Oui.
Mais oui, en fait, ça amène une dimension, pardon, bien particulière à mon travail. C'était la première fois où
j'ai vu un personnage réel.
Ben, un personnage réel qui vit, qui a probablement des attentes par rapport à comment je vais jouer les choses.
Ouais.
Et aussi Martin qui a écrit le texte, qui parle de plusieurs pans de sa vie. Et donc, qu'il y a une musicalité, mais qu'il y a des images précises. On doit se coller sur une vérité, pas nécessairement une vérité imiter quelqu'un, mais la vérité de ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais une responsabilité supplémentaire. J'avais vraiment envie que ça concorde avec ce qu'il voulait. J'ai toujours envie que le réalisateur soit content, mais là, il y avait quelque chose d'un peu plus précieux. Il y avait quelque chose à manipuler avec soin.
Oui.
Et j'en étais très consciente.
Est-ce qu'il vous a beaucoup dirigé ou c'est parti plus de vous? Comment ça s'est passé, le travail de création du personnage?
Ben, c'est quelque chose qui se fait par étapes. Premièrement, tu auditionnes, puis déjà, on t'enligne sur des trucs. Tu sais, toutes les filles qui auditionnent sont enlignées sur des choses. Donc, il y a des choses qui se précise déjà en audition, mais c'est sûr que tu arrives avec une proposition précise de ce que tu crois être le personnage. Après ça, ben on peaufine en audition. Ensuite, on a eu une lecture, tous les comédiens ensemble. Ça, c'était super pour comprendre le ton. Tu sais, on est tous dans le même ton parce qu'il y avait un côté très dramatique, mais très humoristique. Il y a tout ça aussi. Par la suite, on a répété juste moi et Martin avec le réalisateur où là, t'sais, on parlait de OK, qu'est-ce qui est important dans cette scène-là? Ça serait important qu'on sente ça, ta 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 ta. Puis après ça, ben, on est arrivé sur le plateau, puis on le faisait. Puis fait que là aussi, il y a des choses qu'on a trouvées sur le plateau. Fait que, tu sais, notre métier, c'est vraiment quelque chose. On l'a pas toujours ce temps-là, mais quand on l'a, on s'en sert beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit, un personnage, des scènes. Surtout, il n'y avait pas de scène qui ne rimait à rien dans le cas de mon personnage dans cette série-là. Tout était important. C'était une grande toile d'araignée où chaque fil est attaché à un autre, oui, et dépend des autres. Donc, on ne pouvait pas faire ça les doigts dans le nez puis s'asseoir sur nos facilités, maintenant. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est construit tranquillement jusqu'au tournage.
Une très grande série et un beau personnage pour vous, Marie-Lise Bourque. Tout le monde est bon dans cette série-là.
C'est vrai, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a il y a quelque chose par rapport à cette série-là où les performances des acteurs sont excellentes. Le texte est extrêmement fort. C'était le retour aussi de Martin Matt. Il y a comme beaucoup d'ingrédients qui font que la mayonnaise pogne.
Oui,
<je pense. rire>
j'allais dire, parlant de mayonnaise, on pense au... C'est dans Les Voisins, hein, parce que vous avez joué dans Les Voisins, Marie-Lise.
Oui, absolument.
Oui, on ne sait pas ce que ça goûte, la mayonnaise, mais on aime bien ça, là, je pars à France. Mais
oui.
Hier, j'ai beaucoup d'émotions et j'imagine que vous aussi, parce qu'on apprenait la mort d'un de vos, j'allais dire, camarades,
oui,
Marc Messier.
Un camarade de travail, oui.
Oui, je me demandais si vous aviez eu la chance de jouer avec lui.
Absolument, dans la mort d'un commis voyageur.
Ah oui, au théâtre.
Oui, au théâtre, au Rideau Vert, monté par Serge Denoncourt. Puis c'était mon partenaire de jeu, je faisais son amante. Donc, je vous en parle, j'ai des gros frissons. Quand moi, c'est mon chum qui m'a texté hier me disant « Marc Messier est décédé. Hey, » je suis venue tout mal.
Inconcevable.
C'était pas un ami que j'appelais, là, qui était proche de moi au quotidien, mais c'était un homme marquant. C'était un homme d'une... Moi, ce qui me reste de lui, c'est sa grande douceur. Premièrement, c'est quelqu'un qui rentrait dans une pièce, il émanait énormément, mais sans rien forcer.
Tout à fait.
C'était quelqu'un d'extrêmement doux, de calme, de très drôle, mais jamais dans... en vouloir en pousser une, ou prendre de l'espace, ou prendre un espace qui n'est pas à lui. C'est un grand cœur. Moi, quand je l'ai rencontré, là, il venait me voir, il venait s'asseoir à côté de moi, puis il me posait des questions, puis il s'intéressait. C'était vraiment un bel être humain. Un grand acteur, c'est vrai, puis c'est un acteur, je pense que le public... voir un peu comme Michel Côté, c'est un choc. Ils ont tellement été sur nos scènes, dans nos télés, on a tellement l'impression de les connaître.
Mais tout à fait, oui.
Moi, oui, l'acteur, mais moi, c'est l'être humain qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je l'avais revu dernièrement dans le contexte du Gala des Prix Gémeaux. On faisait un numéro en groupe, puis il était là. Puis ça me faisait tellement plaisir de le revoir. Puis quand je me souviens, quand j'étais partie, j'étais là, j'espère que je vais retravailler avec lui. C'est quelqu'un de profondément humain, d'attachant, de lumineux, de drôle.
Il va nous manquer.
Je n'ai que des bons mots pour cet homme. Vraiment.
Ah bien, mon regret, c'est d'avoir manqué cette pièce-là au Théâtre du Rideau Vert. Ça faisait partie de ses rêves de jouer le personnage que Jean Duceppe avait joué avec majesté au Théâtre Duceppe. Et je savais pas que vous aviez partagé la scène avec lui. Le théâtre, Marie-Lise, pour vous, là, est-ce que c'est un médium que vous aimez? Est-ce que vous aimeriez en faire davantage?
C'est un médium que j'aime. C'est pas mon premier médium. Donc, j'arrive toujours un petit peu, tu sais, sur la pointe des pieds, là. C'est-à-dire, go, on y va, là. Tu sais, ça demeure un défi, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'ai compris c'était quoi, parce que ça ressemble pas à la télé, hein. Fait que pour moi, c'était un petit peu nébuleux, là, l'affaire de porter la voix très loin, pas de grossir ce que tu joues, mais de l'habiter plus. Faut que ça porte jusqu'au bout de tes doigts, là. Ça, cette affaire-là, mon Dieu, c'était bizarre et ça demande une part d'ego. Ça demande d'y aller jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Si t'as peur, si tu te méfies, si tu te sens pas bonne, ça se rend pas jusqu'au public en arrière. Donc, il a fallu que je passe par-dessus des barrières de confiance pour y arriver. Puis quand je suis arrivée là, j'ai fait « Oh! mon Dieu, ça goûte bon et ça ne ressemble pas à ce que je fais. Fait que je le vois comme vraiment, mais oui, c'est du jeu, mais c'est vraiment différent pour moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui, des fois, est compliqué à rentrer dans l'horaire, par exemple, parce que quand tu tournes beaucoup, ben là, tu tournes de jour, tu joues le soir, tu fais des tournées, c'est loin, c'est compliqué, tout ça. La vie de famille, j'en ai fait beaucoup à une certaine époque où mes enfants étaient jeunes, puis des fois, je trouvais ça un peu souffrant de l'organisation familiale à travers ça. Mais oui, c'est quelque chose que je veux continuer à faire, que j'aime vraiment beaucoup, qui me sort de ma zone de confort, tout à fait.
Et vous aurez 50 ans, donc, en septembre, le premier jour de septembre. Est-ce que l'âge vous préoccupe, question, j'allais dire, incontournable, qu'on entend sur tous les plateaux?
Ça a beaucoup de chemin, cette question. Il y a la vie personnelle, puis il y a la vie professionnelle. Par rapport à la vie professionnelle, je dirais que je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve extraordinaire de vieillir parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi, en mes capacités. Mon outil, je le connais, je sais maintenant comment je fonctionne. Et le fait de vieillir apporte des personnages plus denses qui nécessitent plus d'expérience, plus de maturité. Donc, c'est juste du positif par rapport à la carrière, je trouve. Mais d'un autre côté, c'est sûr que de voir vieillir à l'écran, ça met en lumière plus dans ta vie personnelle le fait de vieillir dans mon cas. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un, moi, qui est très, très... comment je dirais bien ça? Je pense qu'il y a des gens qui sont plus insécures que moi dans le fait de vieillir. Mais malgré ça, malgré le fait que j'ai des bonnes barres, mettons, pour pas trop m'en faire, ben là, à un moment donné, tu te vois la face à la télé, tu te vois changer, tu te vois... Fait que, et on est conscient quand même du regard que les gens portent sur... C'est facile de dire « Oh mon Dieu, qu'elle a vieilli! » Puis tu sais, c'est un commentaire qu'on peut entendre dans nos maisons, dans nos familles, devant la télé, ben je ne suis pas au-dessus de ça, d'avoir des commentaires sur ce que j'ai de l'air. Puis aussi, tu veux pas... Il y a une question aussi de... Tu ne veux pas tomber dans la fameuse période où... elle a vieilli, il y a moins de rôle pour elle et tout ça. Tu sais, d'arriver comme en pleine possession de tes moyens. Plus tu vieillis, plus tu es en possession de tes moyens et tomber dans une zone de flottement. J'y suis pas, je suis bien contente de ça, mais ce sont des choses qui planent, je dirais, au-dessus de la tête des actrices. Probablement.
Et ça ne devrait pas, parce que la vie, ça peut aller jusqu'à 100 ans et même plus. Je vous souhaite un bon anniversaire à l'avance. Bravo.
Ah, merci.
Bravo pour vos 33 ans de carrière et puis joyeuse continuation, Marie-Lise Bourque. Vous êtes une de nos grandes actrices. Merci, Marie-Lise.
Merci, Hélène. Très, très gentille.